Ça fait toujours du bien de se reposer en Dieu. Amen. Ok, je suis heureux de pouvoir partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin. J'espère que vous allez tous bien. Je réfléchissais un petit peu à la nouvelle année. On a quelques changements dans la jeunesse. On a Clémentine qui est en train de reprendre le groupe de jeunes. J'étais vraiment impatient de voir les plans de Dieu pour le groupe de jeunes, mais on priait hier avec les jeunes aussi pour l'église, de voir qu'est-ce que Dieu allait faire avec l'église cette année. Et si vous êtes ici ce matin, c'est que moi je pense que vous avez un rôle à jouer dans cette église cette année. Amen. Le Seigneur, il est toujours en train de nous préparer pour la suite. Quand on pense que c'est fini, que la route est terminée, il est toujours là pour nous donner un petit quelque chose en plus, pour continuer cette course de l'Évangile, de pouvoir nous aider à pouvoir courir la course, pas comme juste des participants, mais comme des gens qui veulent gagner. Amen. Amen. C'est quand même bien de savoir qu'on est des gagnants. Moi, je trouve que c'est un sentiment qui parfois me remplit, ça donne confiance en soi. Je peux dire, oui, je suis un gagnant, je gagne avec Jésus. C'est un sentiment qui habite. Dieu veut pas juste qu'on court pour participer, mais pour gagner. Hein? Souvent, quand on regarde les circonstances de la vie, on peut se demander un petit peu, je suis en train de perdre. Mais c'est pas ça le désir de Dieu. Le désir de Dieu, c'est de nous voir gagner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de gagner la course ce matin, ou c'est juste moi, je ne sais pas, si vous êtes là avec moi? Je me rappelle que j'étais rentré un peu de la mission de Rome, un petit peu fatigué, je l'avais partagé, un peu chargé, j'ai pu passer des moments récents proches de Dieu. Mais moi je vous demande de continuer à prier pour moi, parce que j'ai besoin vraiment de la puissance régénératrice de Dieu dans mon corps physique, dans mon âme, dans mon esprit. Je suis conscient vraiment qu'on ne peut pas y arriver tout seul. Mais avec lui, rien n'est impossible. Je partageais ça avec quelqu'un vraiment que être chrétien, c'est un peu ce mélange de humilité complète et de la personne la plus sécurisée au monde. C'est un peu ce mélange entre les deux, parce que je sais très bien que je suis rien sans Christ, mais avec Christ, je suis tout. Amen. Amen. C'est Christ ma force, c'est Christ ma fierté, c'est Christ mon énergie, c'est lui qui m'aide à avancer. Et on peut un petit peu se demander, ouais, mais Benjamin, attends, Christ, Jésus, ça fait quand même beaucoup, mais on n'imagine pas à quel point Dieu il veut être intimement connecté avec nous chaque jour. À quel point il veut être présent même dans les plus petits moments. Il y avait quelqu'un qui partageait hier à la jeunesse, c'était Clémentine, elle disait que Dieu veut même être présent quand on choisit notre coiffure le matin. Alors, j'ai pas des conversations avec Dieu sur quelle coiffure je vais avoir le matin, moi personnellement, mais je pense que c'est à cause du manque de cheveux, pas parce que le manque d'intimité. Mais Dieu veut être présent vraiment aux moments les plus intimes de notre vie. Je voudrais moi partager ce matin sur la profondeur, la grandeur de l'amour de Dieu pour nous. On parle souvent de l'amour de Dieu, mais est-ce qu'on comprend vraiment à quel point il est immense cet amour-là? Lorsqu'on prie, par exemple, on a la possibilité de pouvoir nous présenter devant le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Lorsqu'on prie, on va dans la salle du trône, c'est cet endroit où Dieu siège et on lui apporte nos requêtes. Dans l'Ancien Testament, il y a toute une série de versets qui indiquent que les choses que Dieu a instaurées, c'était pour expliquer des réalités spirituelles. C'est Hébreu qui nous parle de ça, que lorsque Dieu a créé toute cette institution des sacrifices, avec les Lévites qui devaient sacrifier des animaux pour que le peuple puisse s'approcher de Dieu, qui avait une tente de la rencontre où Dieu faisait résider sa présence et qui avait un endroit très saint où la présence de Dieu était manifestée. Hein, tout ça explique des réalités spirituelles. Et nous, avec Jésus, on a la possibilité de pouvoir aller dans ce lieu spirituel qui dépasse un endroit géographique où on a la possibilité d'aller devant le roi des rois, devant la présence de Dieu. Et c'est vrai qu'on peut en tirer une certaine révérence. Hein, c'est toujours bon de savoir qu'il y a des frères et des sœurs, des responsables spirituels qui vont dans cet endroit et qui apportent des requêtes pour nous devant le roi des rois, mais en prononçant notre prénom. Hein, moi je suis certain que Pascal, quand il prie Dieu, eh bien, il prononce nos noms, il prononce les noms de chaque membre de cette église devant le roi des rois. Et ça c'est quand même quelque chose de spécial. Hein. Il y a un verset qui dit que même les anges sont un petit peu, ne comprennent pas trop ce mystère-là. Que nous, on n'est pas accès à la bordure du ciel, à même l'endroit général du ciel, mais vraiment où Dieu réside dans son trône, la salle du trône. Quand tu pries, tu as accès à cet endroit-là. Ça remet un petit peu les choses en place dans notre tête. Et comment ne pas avoir une certaine révérence dans notre attitude lorsqu'on va dans la présence de Dieu, le Dieu de l'univers qui est infini, éternel, invincible, qui est saint, qui nous permet d'avoir un moment de communion avec lui. Je viens prendre le texte dans Éphésiens au chapitre 3. Je vous invite à aller au verset 14 du chapitre 3. C'est Paul qui nous partage des recommandations. Verset 14, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints qu'il est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusque toute la plénitude de Dieu. Or, celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Paul nous partage ses recommandations en plein milieu de persécution. Il partage qu'il est persécuté, mais que les fidèles ne doivent pas être découragés, car il s'en remet, à la gloire de Dieu. Je me rappelle, c'était en août, je ne sais plus quand, j'ai prêché sur la pression, que la pression était réelle, qu'elle pouvait vraiment nous détruire, et à quel point on devait pouvoir apporter cette pression-là à Dieu pour pouvoir être pressé, mais ne pas être vide, de pouvoir être oppressé, mais ne pas tomber. Et je pense qu'une bonne façon de pouvoir gérer cette pression, comme ici on a Paul qui le partage, c'est d'avoir une révélation de la profondeur, de la largeur, de la longueur, de l'amour de Dieu pour toi. Aussi, verset 13, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Et nous avons au verset 12 le rappel que c'est à travers Jésus qu'on peut venir dans la présence de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Et au milieu de toute la puissance et la révélation de la croix, on doit expérimenter une nouvelle compréhension de l'amour de Dieu, pour nous et pour l'humanité, afin qu'étant enracinés, fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints qu'il est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu, et connaître l'amour de Christ qui surpasse... Oui, ça je viens de le lire, et qui surpasse toute connaissance. Est-ce qu'on a vraiment une compréhension de cet amour, la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ce Dieu qui inspire la révérence et qui est rempli de gloire, hein, est-ce que je comprends à quel point il m'aime? L'amour de Jésus, il est spécial. L'amour de Jésus, il ne condamne pas, il pardonne. L'amour de Jésus, il ne blesse pas, mais il guérit. L'amour de Jésus, il ne punit pas, mais il vient réconforter. Le texte en langue originale met en avant quatre dimensions infinies pour essayer de verbaliser la grandeur de cet amour. Hein, si on va voir le texte, quand Paul l'a écrit, il utilise peut-être des mots qui sont un petit peu difficiles à comprendre pour nous, quand on les lit juste comme ça, parce qu'ils n'en ont pas tout le sens. Mais quand Paul parle de la longueur, il ne dit pas juste longueur, il dit aussi long que tu peux imaginer d'un bout à l'autre de l'univers. C'est un espèce de superlatif. Aussi haut que tu peux regarder, même encore plus loin, jusqu'au plus profond de là où tu peux voir. C'est vraiment un mot avec tellement de qui est lourd de sens. Il y a quelque chose de spécial lorsqu'on comprend l'amour de Dieu. On est rempli de sa plénitude. La conséquence de la plénitude de Dieu sera de pouvoir marcher en étant des imitateurs de Dieu, en acte et en parole. C'est quelque chose qui dépasse un peu la connaissance, c'est pas quelque chose qu'on peut juste expliquer. Quand on parle souvent à des gens, qu'on a une relation avec Jésus, je ne sais pas si vous êtes arrivé, mais ils disent, non mais, je me rappelle, il y a une semaine ici, on parlait à quelqu'un, juste de la fait qu'on avait une relation avec Dieu. Et cette personne ne comprend, enfin elle disait, mais non, vous avez une relation avec Dieu. Hein? Et alors, on explique un petit peu le message de l'évangile. Et ça ne passait pas parce que ce n'est pas juste quelque chose qu'on peut expliquer, mais c'est quelque chose qu'il faut expérimenter, l'amour de Dieu. C'est quelque chose qu'on doit pouvoir vivre dans nos cœurs, une rencontre vraiment avec Jésus, ça s'expérimente. Je pourrais venir devant vous et dire, Jésus vous aime, je vous aime tellement, on a quelque chose qui nous sépare de Jésus, c'est le péché, hein, qu'on le veuille ou pas. Hein, et puis il y a une solution à ça, c'est Jésus qui vient mourir sur terre, Dieu qui s'incarne. Hein, qu'est-ce que tu veux faire avec ce message-là? Est-ce que tu veux recevoir Jésus dans ton cœur? Je pourrais l'expliquer, l'enseigner, mais c'est quelque chose qui dépasse la connaissance, c'est quelque chose qu'il faut expérimenter. Et ce matin, tu peux te demander, est-ce que moi j'ai expérimenté l'amour de Jésus dans ma vie? Est-ce que j'ai fait cette rencontre avec Dieu? Est-ce que c'est juste une connaissance par loyauté, parce que j'appartiens au christianisme, ok, ouais, je crois en ça, ou est-ce quelque chose que j'ai vécu? J'ai fait une rencontre avec Dieu dans mon cœur. C'est ça l'amour de Dieu. Si nous comprenons son amour, si on comprend l'amour de Dieu, on peut devenir des imitateurs de Dieu. Ici, donc, Paul met en avant quatre dimensions infinies. On va commencer par la largeur de l'amour de Dieu. On peut voir un peu le contexte. Le passage qui a conduit Paul à parler de l'amour de Dieu traite de l'élargissement du salut. Hein? Jusqu'à la venue de Jésus, ceux qui étaient sauvés étaient presque uniquement les Juifs, le peuple choisi. Mais en Jésus, Dieu offre à chacun cette possibilité du nord au sud, de l'ouest à l'est. Tous ceux qui se tournent vers Dieu seront sauvés. La grâce de Dieu se manifeste en ce qu'il a envoyé son Fils pour témoigner de cette dimension. Il sauve sans distinction de race, de sexe, de condition sociale. Les païens participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, Éphésiens 3, verset 6. Et comment nous, on peut vivre cette dimension de l'amour de Dieu? Comment est-ce qu'on peut vivre cette largeur de l'amour de Dieu? Hein, il est normal qu'on puisse manifester le même intérêt pour tous, pour le peuple d'Israël comme pour ceux du monde entier, par notre prière, par nos intérêts, par nos dons. Il est nécessaire qu'on garde vivante cette vision de Dieu pour tous, une vision un peu nombrilique, ça ne reflète pas l'amour de Dieu. C'est marrant parce que parfois on voit que dans nos relations personnelles, l'indifférence peut nous garder. Par rapport à des gens, par rapport à certaines idéologies, je vais prendre par exemple le racisme. Hein, parfois le racisme, il est en nous sans qu'on le sache. Alors c'est un mot qui peut faire peur, c'est le racisme, parce que c'est lié à tellement de haine. Mais moi je parle ici juste d'un racisme, allez, on va dire de surface. On ne se rend même pas compte qu'on l'a. Hein, c'est-à-dire qu'il y a parfois un certain groupe de personnes, hein, ils n'ont pas la même culture que nous, la même couleur de peau, alors on ne va pas être avec eux. On ne va pas s'associer. Mais parfois c'est inconscient qu'on fait ça. Parfois on ne s'en rend même pas compte. Hein, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà expérimenté ça. Je me rappelle, ma sœur voyageait aux États-Unis et Julie, elle était dans l'état de New York et elle avait fait développer des amitiés avec quelqu'un de la communauté hispanophone. Et puis à un moment donné, cette fille de la communauté hispanophone, elle dit « My people don't really hang out with your people. Mes gens ne traînent pas vraiment avec tes gens. » Et alors pour ma sœur, c'était vraiment quelque chose de bizarre, parce que pour elle, elle avait grandi dans des, elle avait beaucoup voyagé, donc voilà, elle s'était fait une amie, elle n'y pensait pas plus. Et puis cette fille de la communauté hispanophone lui expliquait que mes gens et tes gens, ils ne se mélangent pas vraiment d'habitude. Hein? Et on peut se poser cette question, est-ce que parfois nous on fait preuve un petit peu de la même chose? Est-ce que parfois on manque un petit peu de la largeur dans l'amour qu'on ressent pour les autres? Jésus dévoile l'attitude des religieux qui étaient connus comme un peu racistes. Jésus savait vraiment s'intéresser à chacun, aussi bien à un jeune homme riche qu'à un mendiant aveugle, à une prostituée qu'à un percepteur d'impôts. L'acceptation de ces dimensions de l'amour résoudrait une grande partie le problème du racisme, mais aussi d'autres. L'amour du Seigneur est sans limite, il ne dépend pas de l'apparence de ceux qui s'approchent de lui. Est-ce qu'on vraiment peut refléter dans la vie l'amour de Dieu qui s'étend aussi largement qu'on peut l'imaginer? C'est vraiment une question personnelle qu'on peut se poser juste à nous. C'est pas quelque chose où il faut se sentir accusé ou culpabilisé. Il faut se demander, ok Seigneur, est-ce que moi j'ai cette même largeur que toi dans mon amour? Ou est-ce que parfois je fais preuve de préjugés envers certaines personnes? Hein, moi je pourrais être le premier à dire qu'il y a des moments j'ai fait preuve de préjugés envers certaines personnes, même sans le savoir parfois. La longueur de l'amour de Dieu. Après la largeur, on parle de la longueur de l'amour de Dieu. Bien avant de poser les fondations du monde, Dieu nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. La longueur de l'amour de Dieu se manifeste dans le temps. Si la largeur dans tous les gens qui sont vraiment la possibilité de s'approcher de Jésus, la longueur de Dieu se manifeste dans le temps. Déjà Dieu avait affirmé envers Israël, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur éternel. Dieu sait l'amour dans la Bible. Il nous aime depuis toujours, malgré la présence du péché. Il a tout préparé pour nous combler de ses bienfaits. C'est vraiment réconfortant pour un enfant de savoir que ses parents l'aiment, même avant qu'il arrive dans la famille. Il sait que cet amour n'est pas lié à son bon comportement, mais que c'est vraiment un amour inconditionnel. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais les enfants, parfois, ils sont sans pitié par rapport à l'amour. Hein? Peu importe ce qu'on est en train de faire, peu importe combien ça va coûter, un enfant ça vient et ça demande sans gêne et sans vraiment aucune honte. Ça demande tout, ça peut interrompre un travail très important, ça peut interrompre, on est en train de faire de l'argent, ça peut demander quelque chose qui coûte beaucoup trop cher. Parce que pour un enfant, l'amour inconditionnel est là. Ah, mais Et c'est un petit peu intéressant de voir quand Jésus nous dit comme des enfants. C'est peut-être ça un peu que ça veut dire. Qu'on peut vraiment venir devant Dieu et pouvoir venir devant Dieu sans limite, avec cette même attitude. Seigneur, même si je sais que tu es en train de faire tourner probablement l'univers, eh bien je viens t'interrompre dans ton travail. Je demande un moment d'attention pour te prier pour mes petits problèmes à moi. Hein? Un enfant, ça ferait ça. Seigneur, je sais que il faudrait un miracle pour changer cette situation-là, mais je viens devant toi et je te demande ce miracle. Hein? Dieu, il a un amour inconditionnel pour toi. C'est ce genre de prière qu'il veut que tu fasses. Il attend qu'une chose, c'est que tu viennes l'interrompre dans son grand travail d'être Dieu. Dieu nous aime constamment. Si son amour est inconditionnel, il nous aime constamment. Son amour ne varie pas selon ce que nous sommes. Il nous aimera toujours, demain comme aujourd'hui. C'est une certitude, on n'est pas à la merci de sentiments fluctuants. Mais Dieu, il est fidèle dans son alliance. Le malheur vient souvent de ce qu'on fait, Dieu à notre image, donc changeant, non, Dieu, il ne change pas. Peu importe ce que tu fais, peu importe les actes que tu as commis, Dieu t'aime toujours. Parfois, je me rends compte que parfois, je mélange un petit peu quand je suis pas content envers moi-même ou quand Dieu n'est pas content envers moi-même. Il est possible que parfois on ait senti un sentiment, une conviction de péché, qu'on avait fait quelque chose de, où on sentait que ce n'était pas par rapport à l'identité que Christ nous avait donnée. Et puis, récemment, je sentais de la culpabilité en moi et j'étais devant Dieu et je lui demandais, mais est-ce qu'il se passe quelque chose? Et je me suis rendu compte que ce n'était pas Dieu, c'était moi qui étais fâché envers moi-même. Ce n'était pas Dieu qui était fâché envers moi. Dieu nous aime d'un amour inconditionnel, c'est-à-dire que peu importe ce qu'on fait, il va nous aimer de la même manière. C'est parfois un petit peu difficile à cerner parce que on se dit, oui, mais il y a parfois des choses qui ont des conséquences. Oui, c'est tout à fait vrai. Mais l'amour de Dieu ne change pas. Le désir de Dieu pour nous voir vivre une vie heureuse et sainte ne change pas. La raison pour laquelle Dieu nous donne des limites, c'est pour nous protéger, pas pour nous embêter. Qu'est-ce que ça va entraîner dans notre comportement, tout ça? Ça nous fait partie de persévérance, de volonté. Ça nous fait rendre compte que s'engager avec Dieu, si on veut être inspiré du même amour, c'est sans se relâcher. C'est presque un choix en fait. Je choisis d'aimer Dieu, je choisis de le suivre, je choisis d'aimer mon conjoint par exemple. C'est un choix, ça ne devient même plus un sentiment, mais un choix. Dieu dans son amour inconditionnel a choisi de t'aimer. C'est une décision qu'il a prise. Il dit, quoi qu'il arrive, je vais l'aimer. Et parfois ça peut nous remettre en question par rapport à nous quand on aime les gens. Est-ce qu'on a choisi de les aimer ou est-ce que nos sentiments dépendent des guilis qu'on sent dans le ventre? Est-ce que nous, on a choisi de l'aimer ou est-ce que ça dépend un petit peu de ce qu'il nous apporte dans notre relation? Moi, ça m'aide à vivre quand j'ai compris comment Dieu m'a aimé et continue à m'aimer malgré tout. C'est un petit peu bon aujourd'hui d'être un petit peu de zapper. J'aime plus, je suis girouette. Moi, je parle à beaucoup de couples qui sont ensemble parce qu'ils se rendent heureux. Si je parlais à beaucoup de couples, c'était la raison pour laquelle ils se sont mis ensemble. C'est souvent des gens qui ne sont pas croyants. En tant que médiateur familial, j'en rencontre. On est ensemble parce qu'on est heureux. Et puis, ils arrivent devant moi. Voilà, je ne suis plus heureux, donc on va divorcer. Et c'était clair dès le départ. On était ensemble parce qu'on était heureux. À partir du moment où tu ne me rends plus heureux, je m'en vais. Et c'était le contrat qui avait été passé entre les deux. Ça limite un petit peu la relation. Ça donne un aspect assez superficiel, malheureusement. Je rappelle que on est chacun responsable de notre propre bonheur. On ne peut pas projeter ça sur quelqu'un, ce serait vraiment pas juste. C'est toi qui es responsable de ton bonheur. Le problème de la culpabilité pour les chrétiens vient de l'oubli de la longueur de l'amour de Dieu. Et même d'un amour inconditionnel. Les problèmes de relations dans une église viennent de cet oubli de la longueur de l'amour de Dieu qu'on oublie de manifester. On est appelé à regarder vers Dieu, à vivre unis à Christ. Comment Dieu nous a aimés, il nous aimera toujours. Nous avons besoin d'accepter que Dieu nous aime de cette manière et on a besoin de pouvoir aimer les autres de cette manière-là aussi, avec persévérance. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré, enfin je suis certain que vous avez déjà rencontré des caractères difficiles, des gens qu'on a difficiles à aimer. Je ne sais pas si c'est déjà, je vois des sourires, donc j'imagine que oui. Je vois exactement de qui tu parles, Benjamin. Ne dites pas de nom, on ne veut pas froisser personne ce matin. Chut. Après, Pascal va venir me voir, Benjamin. Mais c'est vrai que parfois, il y a des gens qui ont vécu des choses, ça leur donne des bagages dans leur vie, dans les relations, les bagages viennent nous donner des petits coups. Parfois, c'est voulu, parfois, c'est pas voulu. Mais il y a des gens qui sont difficiles à aimer, c'est vrai. parce qu'ils rendent vraiment difficile pour qu'on les aime. Et là, on est confronté à cet amour de Dieu-là. On dit, ok, Dieu, il a choisi de m'aimer. Est-ce que ça va me remettre en question, moi, dans mon amour envers les gens? De quelqu'un que je ne connais pas, un SDF que je vois dans la rue, je pourrais choisir de l'aimer, je pourrais choisir de faire quelque chose pour lui, à une relation qui existe depuis très longtemps, qui parfois me fait du mal. C'est important de fixer des limites dans les relations comme ça, d'avoir des limites claires, de ne pas se laisser détruire, mais de pouvoir continuer à choisir d'aimer, même si j'ai rien en retour. La hauteur de l'amour de Dieu. C'est par la grâce, l'amour immérité de Dieu qu'on est sauvé. Par le moyen de la foi, ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ephésiens 2, verset 8. C'est en effet d'une façon parfaitement libre, sans être contraint par qui que ce soit, que Dieu a fait une alliance d'amour avec nous. Il ne nous est redevable de rien. Dieu ne te doit rien. C'est un amour gratuit qui ne dépend de rien qu'il offre. Cette dimension de son amour, ça parle vraiment de sa souveraineté, la hauteur de l'amour de Dieu. La hauteur de l'amour de Dieu. Dieu ne nous devait rien et pourtant il a choisi de mettre son amour une barre encore plus haut et de dire « Ok, je ne te dois rien mais je te donne tout ». C'est intéressant de voir quand parfois on grandit dans l'église, on a tendance à croire que Dieu nous doit des choses. Dieu nous doit le bonheur, Dieu nous doit une vie sans souffrance, Dieu nous doit une vie rose, bonbon, bleu pâle. Dieu me doit ça, je l'ai mérité. Mais si on réfléchit, Dieu ne nous doit rien. Dieu a choisi de nous donner tout. Et ça met encore en perspective la dimension absolument infinie de cet amour-là. Alors que Dieu ne devait rien, il s'est mis et il a tout donné, sa propre vie. Est-ce que nous, on reflète tous les jours cette hauteur-là? Hein, on se rend compte parfois que notre amour, il est facilement conditionné par l'attitude des autres. Cet amour, il est pas si facile à donner que ça. On aime celui qui nous aime ou qui est aimable. En fait, cet amour qu'on a souvent pour les autres, ça dépend de l'autre. On aime dans la facilité ou dans un esprit de justice ou par intérêt. Un peu comme de la poudre à lessiver. Je teste cette poudre à lessiver-là. Si elle me plaît, je continue. Sinon, je change. C'est marrant parce que moi, je m'étais rendu compte de quelque chose. Parfois, j'aimais les gens juste un petit peu plus qu'eux m'aimaient. Comme ça, je leur devais rien. Donc, si les gens m'aimaient là, je vais les aimer un petit peu plus. Comme ça, je suis sûr que je leur dois rien. Mais ça conditionne, en fait, l'amour. Ça le conditionne totalement. C'est le Saint-Esprit qui m'avait révélé ça. Je ne savais absolument pas que je faisais ça, mais c'est vrai. Si les gens m'aimaient, dans une relation, j'étais sûr de donner un petit peu plus. Comme ça, j'étais sûr que je leur devais rien. Au lieu de juste pouvoir recevoir ou donner gratuitement. Quoi de plus normal, selon des réactions humaines, d'être indifférent à la sortie de l'église vis-à-vis de certaines personnes qui n'ont rien donné, ou qui n'ont rien donné d'agréable, ou qui sont indifférentes envers nous? Mais on sait l'habitude de l'indifférence, c'est pas bien. C'est mieux la puissance de l'amour. Jésus disait à ses disciples que le fait de n'aimer que ceux qui les aimaient était une attitude que même les collecteurs d'impôts, qui étaient réputés pour leur malhonnêteté, avaient. Si ne vous saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas d'eux-mêmes? Votre Père céleste est parfait, soyez donc parfait comme lui, parfait dans son amour. Si j'aime comme Dieu aime, j'aime sans attendre en retour. Une dimension difficile, mais possible quand on a une révélation de l'amour de Dieu. Tout ce que je suis en train de dire ici, la hauteur de l'amour de Dieu se manifeste dans sa liberté souveraine et gratuite. Tout ce que je suis en train de dire ici vraiment, ce que je pense que Dieu a mis sur mon cœur pour l'Église ce matin, c'est que cet amour-là, il est capable de le donner quand on a une rencontre et une compréhension de l'amour de Dieu pour nous. C'est « je comprends et j'ai une expérience de l'amour de Jésus, alors je suis capable de pouvoir aller donner cet amour-là aux autres, de la même manière, comme des imitateurs de Dieu. » La profondeur de l'amour de Dieu, c'est la quatrième et dernière dimension que je voudrais voir avec vous ce matin. Autrefois, nous vivions selon nos désirs d'hommes livrés à eux-mêmes, et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous par nature destinés à subir la colère de Dieu, comme le reste des hommes. Mais Dieu, riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés, il nous a fait revivre avec le Christ. La profondeur de l'amour de Dieu s'appelle le pardon. Il n'y a pas de péché, de faute qui ne soit impardonnable pour celui qui vient à Dieu. Le pardon de notre Père Céleste est plus grand que le poids de nos péchés. Dieu, il affirmait par Ésaïe, si vos péchés sont rouges comme de l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. Ésaïe, chapitre 1, verset 18. Aussi, que le coupable revienne à l'Éternel, qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui ne se laisse pas pardonner. Ésaïe 55, verset 7. La profondeur de l'amour de Dieu va jusqu'au plus profond de notre misère. Si on a creusé un puits dans le désert où il y a toute notre solitude, dans un désespoir, tout notre péché, et c'est vraiment, vraiment, vraiment profond, Dieu a l'amour assez profond pour aller nous chercher là. La profondeur de l'amour de Dieu. Il a décidé que même au milieu de toute la noirceur, il allait mettre sa main et nous sortir de là. La profondeur de l'amour de Dieu se voit bien sûr en Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en devenant semblable aux hommes. Il s'est humilié jusqu'à subir la mort, oui, sur la mort, sur la croix. La profondeur de l'amour de Dieu, ça révèle un Dieu, un Créateur, qui s'identifie à sa création, qui s'identifie à nous-mêmes. Par amour, il a accepté de tout perdre et d'être mis au rang des malfaiteurs. C'est le dernier échelon qu'on puisse atteindre. Et là encore, mieux que n'importe où, c'est l'amour de Dieu qui se manifeste. Si on comprend ça, si on accepte de quel amour Dieu nous aime, si son pardon nous transforme, alors ça devient quelque chose qui est en nous, quelque chose qui part de l'intérieur et qui va vers l'extérieur. Imaginons qu'on se retrouve dans des situations où on voit que notre amour est limité. On se dit, ouais, Dieu m'a pardonné, mais moi j'arrive pas à pardonner aux autres. Alors on devrait pouvoir se mettre devant Dieu et dire à Dieu, Seigneur, je suis arrivé à mes limites en tant qu'humain, mais je veux expérimenter ton amour plus pour pouvoir le mettre en pratique encore plus. Si on a l'impression d'être limité dans notre pratique du bien, allons vers l'auteur du bien pour qu'il puisse nous déverser en nous des choses. Éphésiens chapitre 4, verset 32 dit « Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Si Christ nous a pardonné, ça c'est vraiment quelque chose par rapport à la profondeur de son amour. S'il a réussi à nous pardonner, Dieu veut qu'on puisse se pardonner les uns aux autres. Il y a un verset qui dit dans la Bible « À ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples par la façon dont vous vous traitez les uns les autres. » Ça c'est vraiment le plus beau témoignage que l'Église peut donner. C'est la façon dont nous on se traite les uns les autres dans l'Église. Il faut dire « Ok, on m'a fait du mal, mais... » Je choisis de pardonner. Le pardon, ce n'est pas une émotion, c'est un choix. Je ne dois pas sentir que je ne suis pas capable de pardonner, je dois choisir de pardonner. Et c'est un chemin, parfois ça met du temps. Entièrement d'accord. Mais, de la même façon que Dieu nous a pardonné, eh bien il veut qu'on puisse pardonner aux autres. Pour pas qu'on soit alourdi avec des pierres où on est blessé dans nos cœurs et on est vraiment empêché d'entrer dans tout ce que Dieu veut nous donner. En résumé, Dieu est amour dans toutes ses dimensions, la largeur de l'amour de Dieu, le salut pour tous, sa longueur de toute éternité et pour toujours, la hauteur, il est libre et gratuit, l'amour de Dieu ne demande rien en retour, et sa profondeur jusqu'à dans notre misère, dans notre péché. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Soyons imitateurs de Dieu, le chapitre 5 du même livre dit ceci. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. Si Paul partage toutes ces choses-là au milieu de la souffrance, au milieu de la persécution, c'est pas juste pour faire une belle parole sur l'amour de Dieu, mais c'est pour nous encourager à pouvoir être imitateurs de Dieu, à pouvoir porter cet amour-là. Alors ce matin, j'ai demandé aux filles de revenir à la louange. J'aimerais bien qu'on puisse se tenir devant Dieu. Et je suis demandé de pouvoir expérimenter son amour. Et dans les textes qu'on a lus, il est marqué que c'est à travers l'Esprit de Dieu qu'on expérimente son amour. Et je pense qu'on peut demander au Saint-Esprit de venir toucher les cœurs ce matin. Et que si on sent que notre jauge d'amour, elle est un petit peu vidée par les gens, par la vie, et bien on peut demander vraiment à Dieu de la remplir. Et on peut lui laisser juste regarder comme des gens qui sont observateurs, la conséquence d'être touchés par cet amour-là. Amen. Amen. Seigneur Jésus, on vient devant toi avec beaucoup de révérence et beaucoup d'humilité, Seigneur, mais aussi avec plein de fierté de savoir que tu es notre force, Jésus, et que tu nous aimes d'un amour tellement profond. Seigneur, je te prie que tu puisses nous donner une révélation spéciale de ton amour ce matin. On a envie de pouvoir expérimenter ton amour dans nos vies, Jésus. On a envie de savoir à quel point tu nous aimes, à quel point, peu importe la profondeur de notre misère, Jésus, eh bien tu es venu nous rechercher, Seigneur. Peu importe ce qu'on a fait, peu importe d'où on vient, qui on est, Seigneur. Tu nous aimes tous de la même manière, d'un amour infini et profond. Je remercie parce que cet amour ne dépend pas de nous, Jésus. Il ne dépend pas de nos fautes, il ne dépend pas de nos actes, Seigneur, mais il dépend de toi.